À l'oreille du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, très froide aujourd'hui, parce que notre destination, c'est l'Arctique. Certes, il n'y a pas grand monde qui y vit, mais n'empêche que ce territoire est hautement convoité, ce qui en fait un parfait sujet de géopolitique. Je peux vous donner un exemple récent avec le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui réitère sa proposition de s'emparer du Groenland et même d'annexer le Canada. Ces deux pays touchent l'Arctique, on le verra. Évidemment, je demanderai à mon invité si c'est une menace sérieuse. Mais avant de retrouver Léa Ribette, je vous présente l'Arctique et tout ce qui va avec dans la carte d'identité. En fin d'émission, on écoutera le pas de côté de Florent. Et puis, comme d'habitude, on fera une pause musicale avec une chanson locale. Merci d'écouter à l'oreille du monde. On est en direct jusqu'à 18h sur Radio Campus Paris. L'Arctique, c'est tout de suite.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
C'est parti pour la carte d'identité de ce territoire, de cette région. D'ailleurs, comment est-ce qu'on définit l'Arctique ? Eh bien, en pensant à l'Arctique, on pense au pôle Nord. En effet, ce qu'on appelle Arctique, c'est la région autour du pôle Nord qui englobe l'océan Arctique, quelques îles et les parties nord de 8 États. Les États-Unis, avec l'Alaska, sont présents en Arctique. Leur voisin, le Canada, aussi. Le Groenland, qui est rattaché au Danemark, fait complètement partie de l'Arctique. C'est le cas aussi de l'Islande. Puis, on trouve un bout du territoire de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et enfin la Russie dispose d'un long littoral en Arctique. Mais alors comment délimiter la frontière de ce qui appartient ou non à l'Arctique ? En fait, les climatologues et les géographes utilisent soit le cercle polaire arctique ou bien la ligne de Köppen pour représenter cette frontière fictive. Cette ligne délimite la zone à partir de laquelle les arbres ne poussent plus et cette ligne circonscrit l'isotherme à 10 degrés pour le mois de juillet, c'est-à-dire qu'au-dessus de cette température maximale en juillet, on sort de l'Arctique. C'est donc un climat polaire extrême là-bas, avec seulement 3 mois d'été. Vous l'aurez compris, l'Arctique est un espace à la fois terrestre et maritime, et il occupe une superficie totale d'environ 21 millions de kilomètres carrés. L'océan Arctique est le plus petit océan au monde, avec environ 14 millions de kilomètres carrés. L'Arctique terrestre comporte la banquise et les parties d'État que je viens de citer. Et comme on l'a vu, aucun arbre ne pousse. La végétation de ces territoires, c'est la toundra, composée de mousse et de lichen. Parlons maintenant de la population. On compte 4 millions d'habitants répartis dans les 8 États, dont 500 000 autochtones. Ces habitants sont inégalement répartis. On trouve des grandes villes comme Mourmansk en Russie et des populations autochtones dispersées sur ce très vaste territoire, parmi lesquelles les Inuits, les Samis ou encore les Nénets. Par ailleurs, l'Arctique est très touché par le dérèglement climatique. Par exemple, la banquise fond beaucoup plus vite et les industriels en profitent parce que ça ouvre de nouvelles voies maritimes. On en reparlera tout à l'heure avec mon invité. Le réchauffement climatique fait aussi fondre le pergélisol, un sol glacé qui contient 2 fois plus de CO2 que l'atmosphère. Enfin, la fonte du sol permet aux États d'accéder et d'exploiter plus facilement les ressources en gaz, hydrocarbures et minerais. Voilà, le cadre est posé, place à l'interview pour approfondir la géopolitique de l'Arctique.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Pour décrypter ce sujet hautement géopolitique, je reçois dans le studio Léa Ribette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire-géographie, de géopolitique et de sciences politiques, et vous êtes ici pour nous aider à décrypter la situation en Arctique, notamment les relations entre les États. On parlera aussi des voies maritimes et de l'écologie, puis on essaiera de comprendre les menaces de Donald Trump sur l'Arctique. Premièrement, donc, j'aimerais vous demander quels sont les types de relations entre les États qui sont autour de l'Arctique. Je les ai cités tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de bonnes ententes diplomatiques ou ce ne sont que des tensions ?
Non, en fait, la réponse en fait est double, elle est totalement ambivalente. Nous pouvons constater que les relations aussi à la fois entre rivalités, parfois même certaines sont exacerbées et se transforment en litiges, voire pourquoi pas en futurs conflits, mais également avec des coopérations assez sensibles, qu'elles soient de nature environnementale ou géopolitique, comme l'a bien témoigné le Conseil de l'Arctique qui a été créé en 1996. Donc les relations sont doubles et s'expliquent par la nature même de l'Arctique et de ses trésors qui sont enfermés dans ce dernier.
Justement, ces rivalités, elles sont de quelle nature ?
Alors, elles sont de plusieurs natures. Déjà, l'Arctique, comme je l'ai laissé entendre, recèle de ressources hautement stratégiques, à la fois de ressources énergétiques offshore, qui sont de plus en plus rares, convoitées à forte valeur ajoutée, que ce soit le pétrole et le gaz. Et nous savons évidemment que ces dernières sont de plus en plus minimes à l'échelle internationale, donc elles excitent un petit peu ces compétitions interétatiques. Il y a également des ressources minières non négligeables, comme le zinc, notamment, qui sont fortement utile pour notamment fabriquer tout ce qui vont être les composants de nos écrans LCD, de nos iPhones, de nos batteries, et qui vont permettre là aussi à des États de pouvoir renforcer ou de faire éclore des prospérités et des hégémonies économiques, surtout primordiales dans notre mondialisation capitaliste. Et puis, évidemment, les rivalités sont d'ordre territorial, comme vous le savez. Plus le territoire est vaste, plus la puissance est grande. Et donc là aussi, on est vraiment dans des dimensions purement classiques liées à un impérialisme plutôt déguisé dans notre monde post-Seconde Guerre mondiale pacifié.
Tout à l'heure, vous avez parlé du Conseil de l'Arctique, qui regroupe donc 8 pays autour de l'Arctique et aussi les populations autochtones. Et je voudrais vous demander à quoi sert réellement ce Conseil de l'Arctique. Est-ce que ce qui est décidé là-bas est vraiment respecté par les États membres ?
Alors, à l'origine, en 1996, nous sommes dans un monde post-guerre froide, donc dans un monde qui laisse entendre que c'est le modèle démocratique libéral qui l'a emporté, le modèle états-unien, et donc il s'inscrit dans cette rhétorique et dans cette dynamique de pouvoir désormais pacifier l'ensemble des zones qui peuplent la Terre, et donc l'Arctique, qui est la nouvelle poudrière de convoitise et de rivalité, doit être lui aussi pacifié. Donc il rentre dans cette dynamique-là, d'où l'association de ces pays. Son objectif était notamment de délimiter ce qu'on appelle des ZEE, des zones économiques exclusives, qui permettent à chaque États, à ces 8 États, serait-il utile de les rappeler, hein, que sont les États-Unis, le Canada, la Russie, la Suède, l'Islande, la Norvège, le Danemark, et il me semble que j'en oublie un, Finlande. Et donc ces 8 États cherchaient tout simplement à pouvoir se délimiter, se répartir, comme on dit en géopolitique, l'Arctique comme une des parts de gâteau assez équitable selon les principes biologiques de la conférence de Montego Bay, qui est selon le plateau continental et sa poursuite, on peut obtenir plus ou moins évidemment de portions de l'Arctique. Donc l'objectif était de pacifier, de pouvoir là aussi organiser l'exploitation de ces ressources et donc évidemment la souveraineté sur ces dernières. Et c'était aussi un moyen de pouvoir pacifier des relations extrêmement tendues avec les populations autochtones, comme vous l'avez bien dit, puisque ces dernières ne souhaitent pas être justement soumises, et notamment des pays comme le Canada ou notamment la Suède ont, à la suite de ce Conseil de l'Arctique de 1996, permis à ces populations autochtones d'obtenir non pas leur indépendance, mais leur autonomie. Et ça a été quand même un moyen de pouvoir pacifier et d'unifier une région qui était jusqu'alors, plutôt en proie à des rivalités, source de conflits futurs.
Donc vous dites que l'objectif est d'organiser, de pacifier. Donc c'est réussi, tous les États jouent le jeu ?
Normalement, en effet, tous les États jouent le jeu. Je peux donner un exemple de réussite, c'est la mise en place d'AMP, ces fameuses aires marines protégées, qui rentrent dans une dynamique de protection environnementale durable et qui fonctionne plutôt bien. Dans ces aires marines, aucun État en fait étranger ou limitrophe cherche justement à rentrer et plus ou moins à remettre en cause. Donc on peut dire que c'est une réussite, mais une réussite qui est quand même critiquable, imparfaite, puisque les tensions sont toujours maximum. Un exemple, les conflits frontaliers entre le Canada et la Russie témoignent bien que ce Conseil de l'Arctique est comme une sorte de pansement. Il permet de stopper l'hémorragie, mais pas forcément de l'endiguer totalement.
Eh bien, dans quelques instants, on parlera des nouvelles voies maritimes qui posent question au niveau écologique, mais aussi on s'intéressera à Donald Trump, qui a maintenant un lien avec l'Arctique ou qui veut en avoir un. Mais avant ça, faisons une pause musicale en restant bien sûr en Arctique avec Kashtin, un groupe des années 1980, un groupe de musiciens autochtones des Inuits du nord du Canada. Leur chanson Chinanu, qui signifie « nous autres », est devenue à l'époque presque un hymne national. Voici quelques paroles traduites. Il faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. C'est ensemble qu'on vaincra, c'est ensemble qu'on leur dira que sur les terres du Canada, on est encore là. C'était Chinanou du groupe Kashtin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et notre destination aujourd'hui, c'est l'Arctique. On continue d'en parler avec Léa Ribet.
À l'oreille du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Maintenant, intéressons-nous aux voies maritimes. En 2018, pour la première fois, un porte-conteneurs a emprunté la route maritime nord-est qui traverse l'Arctique. C'est inédit parce qu'aucun bateau de cette taille n'avait encore relié l'Asie à l'Europe par cette voie. Et c'est possible grâce ou à cause du réchauffement climatique qui fait fondre les glaces et ouvre donc de nouvelles voies, plus grandes et qui sont praticables plus longtemps dans l'année. On dit beaucoup que c'est très dommageable pour l'océan Arctique et pour son rôle refroidisseur des autres océans. D'un autre côté, le fait que les navires passent par ces voies plus courtes pour relier l'Europe à l'Asie, est-ce que ça n'a pas un impact positif sur la pollution ?
Alors certes, on pourrait se dire que comme c'est un raccourci, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre seraient évidemment moins conséquentes et donc le dérèglement climatique serait atténué. Mais j'ai envie de dire qu'avoir ce genre de raisonnement est quand même quelque peu funeste puisque le dérèglement climatique resterait le même et les dégâts à long terme seraient tout aussi désastreux. Donc je pense qu'il faut changer de paradigme. Oui, sur l'instant T, c'est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus salutaire, mais sur le long terme, les dégâts resteront tout aussi catastrophiques. Donc il faudrait peut-être changer de mentalité vis-à-vis de ce phénomène-là.
Et par rapport à l'écologie encore, est-ce que c'est un sujet beaucoup discuté par les pays de l'Arctique dans le Conseil ? Est-ce que aussi des institutions internationales sont impliquées ?
Alors en effet, l'aspect écologique est tout à fait primordial depuis l'avènement du développement durable dans les années 90, notamment avec les premiers sommets internationaux de la Terre, et surtout, le poids, en tout cas, la pression que peut réaliser des peuples autochtones qui vivent toujours de manière traditionnelle, avec l'esprit de la chasse, de la cueillette, les igloos, qui ont véritablement le désir de conserver leur habitat naturel et ancestral. Pour eux, c'est un véritable patrimoine, un véritable héritage qu'il faut conserver. Et ils ont vraiment une voix tout aussi majeure et égalitaire que la voix des États. Donc, en effet, l'aspect écologique est tout aussi prégnante et d'autant plus d'actualité. Après, est-ce que concrètement elle se réalise ? Est-ce que les actes qui sont décidés lors de ce conseil sont vraiment mis en application ? La réponse est terriblement non, malheureusement. Et pour terminer, on a aussi l'invitation de la société civile et notamment d'ONG, évidemment environnementales, telles que Greenpeace, qui n'hésitent pas justement par des actions de pression à notamment permettre la cessation d'activités, notamment d'extraction de pétrole. Je peux en citer une, par exemple, que l'entreprise de Cairn Company, qui est une entreprise évidemment britannique, a dû cesser son activité grâce au poids justement de Greenpeace.
Toujours par rapport à ces voies maritimes, on sait qu'elles sont très convoitées. Et justement, quels États cherchent à s'en emparer ? Et est-ce qu'il faut craindre des conflits aujourd'hui entre eux ?
Alors, au niveau de l'appropriation de voies maritimes, c'est quelque peu complexe à proprement parler. Un détroit, par exemple, comme le détroit de Malacca ou le canal de Panama, n'appartient pas à un seul État. En fait, pour pouvoir avoir une capacité de souveraineté dans ces routes-là, il faut évidemment faire intervenir la ZEE. Donc évidemment, si vous avez une ZEE, c'est-à-dire le prolongement de votre plateau continental qui vous permet d'avoir un pied dans cette voie, dans ces routes maritimes, dans ce cas-là, vous allez pouvoir réguler le trafic et vous imposer à la fois comme un gendarme du monde, c'est-à-dire un garant évidemment du trafic international et de cette maritimisation économique source de profit exacerbé, ou alors, dans ce cas-là, vous serez un gendarme du monde parce que vous allez pouvoir aussi démarquer comme véritablement celui qui sera la clé de voûte de cet espace fortement convoité. Donc on ne peut pas véritablement dire quel État aurait le monopole de ces routes-là, mais comme d'habitude, ce sera évidemment les États qui sont limitrophes, et on peut citer le Canada, les États-Unis, la Russie, la Norvège et la Suède en premier lieu.
Donc ces États limitrophes, la Russie ou les États-Unis et le Canada, donc cherchent aussi à utiliser ces voies, à s'en emparer, mais je sais qu'il y a aussi la Chine qui est observatrice du Conseil de l'Arctique. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? À quoi elle sert ?
Alors, la Chine et sa présence ici en tant qu'observatrice lui permet évidemment de ne pas, en tout cas officiellement, de ne pas revendiquer une souveraineté. De toute façon, vu le droit de la mer internationale, elle ne pourrait rien obtenir. Nonobstant, par ce canal, ou en tout cas ce statut d'observateur, cela lui permet quand même de maintenir une certaine connaissance actualiser des réserves d'hydrocarbures, des réserves halieutiques, enfin en tout cas des ressources halieutiques qui seraient présentes, et de pouvoir justement contracter des alliances ou continuer à imposer officiellement l'idée qu'elle est un acteur primordial dans le commerce et aussi dans les relations internationales. Ça, c'est un premier point. Et puis dans un deuxième point, ça répond à sa stratégie qui sont les nouvelles routes de la soie. Je rappelle qu'elle a mis en place ces nouvelles routes de la soie en 2011 et dont l'objectif, c'est que ces dernières puisse permettre en 2049 à la Chine de célébrer donc le centenaire de la révolution chinoise en le célébrant, en déclarant obtenir l'hégémonie globale, c'est-à-dire le statut d'hyperpuissance. Donc ça rentre dans cette dynamique de pouvoir diversifier ses routes, qu'elles soient terrestres, maritimes, et de pouvoir petit à petit réaliser ce qu'on appelle une forme d'impérialisme déguisé, c'est-à-dire détenir des territoires sans évidemment obtenir la souveraineté officialisée, mais dans les faits, ce serait elle qui orchestrerait évidemment toutes les flux commerciaux mondiaux.
Donc la Chine s'intéresse à l'Arctique, mais il y a aussi un autre État qui depuis peu s'intéresse à l'Arctique, c'est les États-Unis. parce que Donald Trump, déjà en 2019, parlait d'acheter le Groenland, qui, je le rappelle, est rattaché au Danemark. Mmh. Et puis, depuis sa réélection, il affiche à nouveau la volonté d'annexer ce territoire, ainsi que le Canada. Trump a l'air sérieux en disant cela. Mmh. Alors, que faut-il en penser ?
Alors, déjà, Trump s'inscrit dans un espèce d'héritage. En effet, le Groenland a toujours intéressé les États-Unis de par sa position stratégique, qui lui permettait, si vous voulez, d'être une espèce d'île tampon qui permettrait justement, grâce aux bases déjà navales et aériennes états-uniennes déjà insérées, de pouvoir justement repérer des missiles balistiques qui pourraient menacer évidemment les États-Unis. Donc il s'inscrit dans cet héritage-là. Nonobstant, le Groenland, certes, est rattaché au Danemark depuis le XVIIIe siècle et sa colonisation, mais a un statut depuis le XXe siècle d'autonomie. C'est-à-dire que la population qui vit au Groenland a son propre drapeau, sa propre langue. Donc c'est un peu culotté quand même de vouloir racheter le Groenland au Danemark, d'autant plus que ce dernier a déjà une voix plus ou moins autonome et que celui-ci a aussi son mot à dire. Alors qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle que Donald Trump reste dans une dynamique de gestion très entrepreneuriale d'un État. C'est-à-dire que pour lui, acheter le Groenland, ce serait acheter une entreprise qui lui permettrait de pouvoir réaffirmer une suprématie, alors d'abord militaire, comme je l'ai dit précédemment, une suprématie économique, parce qu'on sait très bien qu'il y a des réserves d'hydrocarbures majeures, des réserves de minerais qui, comme celles qui sont présentes dans l'Arctique, permettent de construire nos batteries, nos écrans LCD, qui permettraient aux États-Unis de contrecarrer ou de stopper justement la rivalité de la Chine dans le domaine économique et de conserver cette hégémonie de rang international. Et puis, ça lui permettrait aussi de pouvoir dire qu'il est véritablement un homme, en tout cas un homme politique, un homme d'État souverain. C'est sérieux, ça, il faut prendre la menace vraiment au sérieux. L'Union européenne d'ailleurs a déjà, notamment la France et l'Allemagne, apporté son soutien au Danemark, mais c'est symptomatique d'un monde qui se crispe avec une réactivation de pensée impérialiste qu'on pensait révolue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, ce qui est assez inquiétant et alarmant.
Et pour terminer cette interview, en question d'ouverture, j'aimerais vous demander quelle est la situation en Antarctique ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Arctique ?
Alors, à première vue, là, aujourd'hui, on ne peut pas faire un parallèle avec l'Arctique. Pourquoi ? Parce que l'Antarctique, depuis le traité de l'Antarctique de 1959, est justement une terra nullius, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à aucun État. Il n'y a aucun État qui est souverain. Et d'ailleurs, vous n'avez aucune population locale qui y vit. Auparavant, l'Antarctique était le continent austral. On n'a jamais repéré de population locale. Et donc, depuis ce fameux traité, c'est vraiment une terre qui ne doit être que consacrée aux avancées scientifiques. Donc, on fait beaucoup de prospection. Et d'ailleurs, c'est un des territoires qui a permis une véritable coopération internationale entre les scientifiques. Donc, vraiment, ça a été une réussite. Donc, à l'instant T, la comparaison me paraît hasardeuse. Nonobstant, vu la crispation dont on vient d'évoquer avec Donald Trump, cette réactivation de l'impérialisme, des conquêtes, de ces tentatives d'annexion. Est-ce que l'Antarctique sera toujours un terra nullius et un exemple de territoire qui a permis l'union et la coopération ? Ça, je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression qu'avec la Russie qui cherche à extraire du pétrole et les États-Unis qui réactivent des prétentions d'annexion impérialiste, rien n'est sûr désormais pour l'Antarctique.
Eh bien, c'est un sujet aussi très intéressant à surveiller. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Léa Ribette, d'avoir été présente avec nous.
Eh bien, merci surtout à vous de m'avoir invitée et écoutée.
Je rappelle que vous êtes donc professeur d'histoire-géographie, de géopolitique et de sciences politiques. Et pour bien clôturer cette émission, écoutons Florent et son pas de côté.
Avec ton invité Léo, vous avez traité de la géopolitique de l'Arctique des grandes puissances, des États officiels. Je vous propose de changer d'échelle et d'aborder la question par le petit bout de la lorgnette, la géopolitique des micronations de l'Arctique. Ces entités imaginaires revendiquent des morceaux de glace et de neige, un peu comme des îles flottantes de souveraineté. Prenons l'exemple de la République de l'Iceberg, proclamée en 2006 par des militants écologistes. Fondée sur un bloc de glace dérivant dans l'océan Arctique, elle réclame un espace de liberté dans un monde où les grandes puissances s'approprient des portions de ce territoire pour en exploiter les ressources naturelles. La monnaie choisie, des cristaux de glace à échanger avant qu'ils ne fondent, symbolise la fragilité de la situation et l'urgence écologique. Cette République de l'Iceberg n'est pas la seule dans ce mouvement des souverainetés glacées. Il existe aussi la Confédération des glaciers indépendants, une alliance de plusieurs îles de glace qui refuse tout droit d'exploitation minière ou pétrolière. En 2018, ce groupe a déclaré sa neutralité et a même proposé un référendum pour interdire toute forme de forage dans ces territoires. Plus étonnant encore, en 2017, un groupe d'activistes a lancé la République de la banquise solidaire, qui se veut un territoire mobile, suivant le flux des glaces arctiques. Leur credo, l'Arctique doit être un sanctuaire protégé des intérêts économiques et militaires. Ils organisent des expéditions pour sensibiliser le public aux effets du réchauffement climatique sur la région et militent contre l'exploitation des ressources naturelles sous-marines. Que penser de ces micronations de l'Arctique ? Ce sont des créations fictives, utopiques, des initiatives locales liées à des territoires illusoires. Pas d'État, pas de frontières tangibles, pas d'armée. Les revendications, en revanche, sont très précises et portent un message fort. L'Arctique n'est pas un territoire à exploiter de manière inconsidérée. C'est un patrimoine mondial qui mérite d'être préservé. Un jour, qui sait, peut-être que des micronations de ce type seront invitées à la table des grandes conférences internationales sur le climat ou la géopolitique de cette région du globe. Après tout, si les grandes puissances peuvent revendiquer des morceaux d'Arctique pour y installer des bases militaires, des plateformes pétrolières ou bénéficier de droits sur les passages maritimes, pourquoi des groupes de militants ne pourraient-ils pas revendiquer des territoires simplement pour les préserver ? Un rêve rafraîchissant, un peu glacé peut-être pour le moment, mais qui interroge sur la notion de souveraineté et qui rappelle à chacun la fragilité de notre planète et la nécessité de lutter pour son avenir.
Merci Florent et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez la partager et écouter les anciennes depuis le site de Radio Campus Paris et sur vos applications de podcast. Je vous donne rendez-vous le 15 février, même heure, même lieu pour une nouvelle destination. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.